Radio France Internationale, il est 17h à Paris, 16h en temps universel.
Florent Guignard.
Bonjour à la une de ce journal. Le Qatar renonce, médiateur depuis un an entre Israël et le Hamas. Le Qatar tire les conclusions d'une médiation qui n'a débouché sur aucun résultat, aucun cessez-le-feu. Une manifestation de la colère ce soir en Espagne après les inondations meurtrières dans la région de Valence. Les manifestants réclament la démission du président de la région. Également dans ce journal, les fermetures d'usines en France vont se poursuivre, dit le ministre de l'Industrie qui prévoit, dans les semaines et les mois qui viennent, des milliers de suppressions d'emplois. Les versets sataniques, bientôt disponibles en Inde, le livre de Salman Rushdie avait été interdit dans un pays qui compte une forte minorité musulmane. Dans 10 minutes après ce journal, vous retrouverez Mondial Sport, il y aura notamment de la Formule 1. Un an, un mois et deux jours de guerre dans la bande de Gaza et un coup de théâtre. Aujourd'hui, le Qatar renonce à toute médiation pour obtenir un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Pierre-Olivier, le Qatar renonce après des mois et des mois d'efforts sans aucun résultat.
Oui, Israël et le Hamas sont prévenus, assure Doha. L'émirat ne jouera plus les intermédiaires tant que les deux camps refusent de négocier un accord de bonne foi, explique une source diplomatique. Terminée donc la médiation du Qatar pour mettre fin à la guerre à Gaza après de nombreuses sessions de négociations infructueuses. En conséquence, le bureau politique du Hamas, qui était depuis plus de 10 ans à Doha, n'a plus de raison d'être, précise cette même source, et n'est donc plus le bienvenu sur son sol. C'est maintenant vers la Turquie ou l'Iran que pourrait se tourner l'organisation pour être hébergée à l'avenir. Cette décision du Qatar intervient après que l'administration de Joe Biden a fortement fait pression sur son allié pour qu'il défasse ses liens avec le Hamas, estimant que la médiation de l'émirat n'avait pas porté ses fruits en l'absence de tout accord. Pour assurer la future médiation entre l'État hébreu et l'organisation palestinienne, les regards se tournent désormais vers l'Égypte, alors que 63 otages israéliens sont toujours détenus par le Hamas et que la guerre a fait plus de 43 500 morts à Gaza selon l'organisation.
Pierre-Olivier, en 24 heures d'ailleurs, ce sont 44 personnes de plus qui ont été tuées par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, selon un chiffre communiqué tout à l'heure par le ministère de la Santé du Hamas, alors que la défense civile palestinienne, elle, a fait état en particulier cette nuit dans la bande de Gaza, toujours de la mort de 14 personnes, 14 Palestiniens tués par deux frappes de l'armée israélienne sur un village de tentes et une école qui abritait des civils déplacés. À signaler aussi cette déclaration de l'Iran, soutien du Hamas dans la bande de Gaza et du Hezbollah au Liban. Le chef de la diplomatie iranienne a mis en garde sur les risques d'insécurité et d'instabilité qui peuvent se propager à d'autres régions, même très lointaines. RFI, il est 17h04 à Paris.
RFI.
Ça sent le soufre, l'œuf pourri dans la région de Valence en Espagne, une semaine après les terribles inondations qui ont fait plus de 200 morts. Et des dizaines de personnes encore portées disparues. Cette odeur, c'est celle de la décomposition de matière organique dans ces boues qui forment le nouveau paysage d'une région traumatisée. Alors on cherche des responsables. Et dans une heure, à Valence, mais aussi dans d'autres localités de la région, le nom d'un homme va être conspué. Le nom du président de la région, Carlos Masson, désigné comme l'un des principaux responsables des défaillances constatée le jour de la catastrophe, selon les dernières révélations de la presse espagnole. Romain Lemaresquier.
Au total, une quarantaine d'organisations sociales, civiles et syndicales ont appelé les habitants de la région de Valence à manifester pour dénoncer la gestion de cette catastrophe et réclamer la démission de Carlos Masson, le président de cette région. D'autres manifestations sont également prévues dans d'autres agglomérations de la région. Après les inondations tragiques qui ont touché 80 localités de cette province et fait plus de 200 victimes, sachant qu'il reste encore un nombre très important de disparus. Carlos Masson est au centre des critiques ces derniers jours, surtout depuis que la presse espagnole a révélé que le jour du drame, le président de la région déjeunait avec une journaliste au moment même où les inondations débutaient. Vilipendé la semaine dernière lors de la visite du chef du gouvernement Pedro Sanchez et du roi d'Espagne Philippe VI sur les lieux du drame, Carlos Masson s'était alors défendu d'erreurs de gestion. Le lendemain, il accusait l'exécutif espagnol de défaillance et l'armée de ne pas avoir réagi à temps. Ce samedi, les habitants de la région contre-réclamaient sa démission. Les organisations qui ont appelé à ce rassemblement demandent aux participants de défiler pacifiquement, dans le silence, en respect aux victimes. Un rassemblement au cours duquel les organisateurs comptent également réclamer des comptes, des informations véridiques et des ressources pour les victimes, selon l'un des responsables.
Romain Lemaresquier. Un attentat au Pakistan revendiqué par les séparatistes du Baloutchistan. L'explosion d'une bombe sur un quai de gare. Bilan 26 morts, dont 14 soldats. Il y a aussi 60 blessés. Les séparatistes ont affirmé avoir ciblé une unité de l'armée pakistanaise. En Belgique, 8 ans après les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, il y a eu le volet civil du procès devant la justice belge pour déterminer le montant des dommages et intérêts accordés aux victimes. On connaît le chiffre depuis hier, 18 millions d'euros. Problème, les victimes risquent de ne jamais toucher cet argent. Correspondance à Bruxelles de Laxmilota.
Ce procès comptait un millier de parties civiles, des familles de personnes décédées, des personnes blessées psychologiquement et ou physiquement, mais aussi des policiers et des ambulanciers. Les dommages et intérêts les plus élevés ont été accordés à l'État belge avec un montant de 2,6 millions d'euros. Le réseau de transport en commun bruxellois, la STIB, a obtenu 1,5 million d'euros. Pour rappel, l'une des bombes avait explosé dans un métro le 22 mars 2016. Mais les parties civiles ne toucheront probablement jamais ces sommes, car les 8 condamnés au pénal sont insolvables. Cependant, l'arrêt de la cour d'assises reconnaît le préjudice subi et il est donc important pour les victimes. L'association V Europe rappelle que de nombreuses personnes ont dû subir un parcours du combattant pour pouvoir obtenir des indemnités et des aides via les compagnies d'assurance. Laxmilota, Bruxelles, RFI.
Des milliers d'emplois vont disparaître en France. C'est l'annonce faite ce matin par le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, qui dit s'attendre à de nouvelles fermetures d'usines.
Il est vrai qu'il y a un certain nombre de filières qui sont dans des situations préoccupantes. La filière automobile, en particulier les équipementiers, la métallurgie, ces filières qui sont soumises à une très forte concurrence internationale, une concurrence qui n'est pas toujours très équitable parce qu'elle est très subventionnée en Chine et aux États-Unis. Et face à cela, eh bien évidemment, il y a des dossiers d'entreprises en difficulté, des annonces de fermeture de sites. Il y en aura probablement dans les semaines et les mois qui viennent. Ça va se compter en milliers d'emplois. On ne peut pas les évaluer précisément. Pourquoi on ne peut pas les évaluer précisément? Parce que sur chaque dossier, on se bat. La priorité, c'est d'essayer de trouver des repreneurs privés. Et évidemment, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de repreneurs, mais dans cette hypothèse seulement, d'accompagner au mieux les salariés et surtout et également d'accompagner la revitalisation du site.
Marc Ferracci, le ministre français de l'Industrie, ce matin sur France Inter. Les versets sataniques de retour dans l'actualité. Le livre de Salman Rushdie, qui avait fait l'objet d'une fatwa prononcée par l'Iran lors de sa sortie, parce qu'il était jugé blasphématoire pour le prophète de l'islam. En Inde, le livre aussi était interdit depuis 1988. Pour éviter les tensions religieuses, mais on vient de se rendre compte que le décret d'interdiction n'a peut-être jamais existé. Les versets sataniques pourraient bientôt arriver en librairie, comme Bastin.
Cela relève plus du hasard que d'une décision mûrie. En 2017, un bibliophile du Bengale occidental s'est tourné vers la justice au nom de sa liberté de lire. L'affaire est montée jusqu'à la haute cour de Delhi, qui a finalement été incapable de mettre la main sur un document attestant de l'interdiction des versets sataniques. S'est-il perdu ou n'a-t-il jamais existé? Toujours est-il qu'en l'absence du dit décret, le livre de Salman Rushdie peut être importé comme n'importe quel autre ouvrage en Inde, a conclu la cour en réponse aux plaignants musulmans. Né à Bombay, Salman Rushdie est aujourd'hui britannique, mais reste célèbre dans son pays d'origine. À la sortie de ce roman, alors que le monde musulman s'enflammait contre un livre interprété comme blasphématoire envers le prophète, le premier ministre indien, Rajiv Gandhi, avait préféré jouer l'apaisement et l'interdire. Le gouvernement actuel n'a pas encore réagi, mais il est peu probable qu'il cherche à briser le jugement de la cour. Reste à voir si les librairies indiennes vont garnir leurs étalages avec cet ouvrage sulfureux, 36 ans après sa publication. Comme Bastin, Bangalore, RFI.
17h10 à Paris, dans un instant, Mondial Sport sur RFI.